France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors, juste au début, je voudrais remercier Caroline. Caroline, c'est une personne qui donc habite en Franche-Comté, qui nous a envoyé cet article de 20 minutes. Il reprenait un article de l'Est Républicain, ainsi titré « Franche-Comté, habitué à sortir ses poubelles nues comme un verre, un homme va être jugé ». Alors, pourquoi cet homme sortait-il nu pour jeter ses poubelles? Eh bien, tout simplement, selon ses dires, parce que c'est plus pratique. Voilà un bel argument qui peut servir à beaucoup de choses. Et merci pour vos envois d'informations capitales. On est toujours preneurs, surtout on attend le film. On aimerait bien que ça devienne un film, en tout cas, cette histoire. Donc, en tout cas, eux, ils sont venus tout habillés. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le communicant Philippe Monchevrolet. Bonsoir.
Bonsoir.
Également, Soizic Kemener. Bonsoir.
Bonsoir.
Marianne. Éric Scholl. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de Courrier International. Et Emmanuel Foulon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la délégation belge au Parlement européen. Et ce soir, on parlera, eh bien, de François Hollande, roi de la petite phrase, Wauquiez, roi du petit tract, hein, G7 bientôt à 6 ou à 5, d'ailleurs on va en parler dans un instant. On parlera également des comptes de campagne d'Emmanuel Macron, mais tout de suite justement on parle du G7. Ah bah voilà quelque chose de pratique. Où placer Donald Trump ce soir au dîner du G7, hein, parce que aujourd'hui au Canada s'est ouvert le sommet donc du G7 et depuis hier une interrogation: Donald figurera-t-il sur la photo finale? En effet, le ton est monté hier entre les Européens et Canadiens contre le président américain, au point où, comme dans les dîners de famille, le G7 pense faire une table. Petite table à côté populiste, hein, où l'on trouvera le président américain et Giuseppe Conte, le président du Conseil italien. Hier, alors qu'on les croyait super copains, le président français a rouspété, hein, contre son Donald Trump et les taxes douanières que les États-Unis souhaitent imposer à l'acier et l'aluminium européen. Et si c'est comme ça, Washington n'aura plus son carton d'invitation et paf, on écoute Emmanuel Macron.
Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était. Parce que ces six-là représentent des valeurs, représentent un marché économique qui a cette force de l'histoire et qui surtout représente une vraie force au niveau international aujourd'hui.
Voilà, donc Emmanuel Macron hier aux côtés de Justin Trudeau. Alors, Éric Scholl, juste au départ, avant de parler du G7, ce G6 imaginé par Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut imaginer un sommet des plus grandes puissances économiques sans la première puissance économique?
Non, c'est strictement impossible. Donc... Il faut que les États-Unis soient là. Maintenant, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé depuis maintenant plus d'un an, effectivement, c'est on voit les États-Unis sortir petit à petit de ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire de cette action collective des différents pays, des grandes puissances, pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Alors, quand on entend le président français dire « ben voilà, ça nous est égal », non, ça peut pas. C'est juste pas envisageable, parce qu'on voit bien que la première puissance, elle est dans beaucoup de domaines, en particulier dans le militaire. Sur le commercial, on peut dire que l'Union européenne est sans doute la première puissance mondiale sur le plan commercial, mais sinon les États-Unis restent beaucoup trop puissants et il faut nécessairement discuter avec eux, et c'est ça aujourd'hui qui devient de plus en plus difficile.
Alors, Soizic Kemener, on se souvient de la visite d'Emmanuel Macron à Washington, c'était une bromance, comme on dit.
Une danse nuptiale, voilà. Oui.
Et alors là, d'un coup, depuis la semaine dernière, coup de téléphone injurieux, Emmanuel Macron a même comparé avec une phrase de Bismarck, hein, les saucisses. Là, de nouveau, une critique de Donald Trump, donc c'est fini cette passion entre les deux?
Alors, vous avez remarqué que dans un premier temps, l'Élysée a atténué, hein, c'est-à-dire que CNN, c'est CNN, le média CNN qui avait sorti l'information comme quoi ça s'était très mal passé au téléphone entre Emmanuel Macron et Donald Trump, et l'Élysée disait non, pas du tout, pas de commentaires, on commande pas ce genre de coup de téléphone. Et puis là, effectivement, jeudi soir, il est obligé de mettre un petit coup de pression, Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, il s'est beaucoup avancé, en tout cas en termes d'image, parce qu'il y a quand même eu des discours lors de sa visite d'État aux États-Unis qui n'étaient pas favorables à Donald Trump, ou en tout cas à sa politique. Mais ce qui était resté quand même de cette visite de plusieurs jours, c'était la proximité, la danse. Ouais. Voilà. Alors, on voit l'image derrière vous. Ils se tiennent fort les mains. Et donc, il fallait quelque part lancer une nouvelle étape. Et c'est ce qu'il fait avec Justin Trudeau. Mais vous avez remarqué, il essaie toujours d'être un peu chef de camp,
oui,
chef d'un groupe. Hein. Donc, il était avec le Premier ministre canadien jeudi. Après, ce matin, il essaie de regrouper tous les Européens derrière lui en disant « Regardez, on va y aller en bloc », mais ils sont pas en bloc, puisque le Premier ministre, le chef du gouvernement italien, est quand même intéressé par la proposition de Donald Trump qui sème la zizanie. Ça ne servait qu'à ça.
C'est ça, voilà.
Donc c'est quand même un passage assez compliqué pour Emmanuel Macron, je pense.
Oui, Philippe Moreau-Chevrolet, là, c'est en effet difficile, parce que c'est vrai qu'on voit quand même aussi les plans d'Emmanuel Macron sur l'Europe qui se déroule pas comme prévu. Là, on voit l'international, sa stratégie de com, finalement, où on a vu, après, sur l'accord sur le nucléaire iranien, en fait, qui s'était fait un peu avoir par Donald Trump. C'est un peu difficile, là, en ce moment, à ce niveau-là.
Oui, c'est difficile. Déjà, il a fallu faire avaler à l'opinion publique, lors du voyage à Washington, que Trump, finalement, n'était pas un imbécile total et un fou dangereux, mais quelqu'un de vraiment fréquentable et sympathique. Déjà, ça avait du mal à passer, parce que c'était 180 degrés par rapport à ce qu'on disait auparavant. Maintenant, il redevient un adversaire, donc il va falloir réexpliquer à l'opinion française que finalement, c'est pas notre copain. Bon, on s'en doutait quand même un tout petit peu. Il s'est fait un peu manipuler par Trump, en réalité, qui est beaucoup plus fort en termes d'image que la plupart de ses adversaires. Il sait très bien les utiliser, s'en moquer. Et c'est assez humiliant, finalement, pour Macron, ce qui est en train de se produire.
Oui, parce qu'il paraît que pour bien connaître Donald Trump, il faut lire, en fait, le seul livre qu'il a écrit, c'est L'art de la négociation, en fait. Il paraît que c'est ça, hein, Richel. Hein,
c'est exactement ça. Et vous savez, dans quelques jours, Donald Trump va partir en Corée. Et on dit que le basketteur Dennis Rodman, oui, qui avait été parti en Corée l'année dernière pour rencontrer Kim Jong-un, il était parti avec ce livre, L'art de la négociation, en espérant que Kim Jong-un le lirait. Sans doute l'a-t-il lu. En tout cas, il se retrouve mardi prochain à 9h du matin à Singapour.
Et Emmanuel Foulon, est-ce que finalement, aussi dans toute cette histoire, on voit... Il n'y a aucune voix finalement commune de l'Europe. On voit Emmanuel Macron qui essaye, on voit Merkel d'un côté. C'est ça en fait le problème, non ?
C'est un peu la tactique de Macron, effectivement. Il était d'abord dans un genre de clip, la petite maison là à la prairie avec Donald Trump. Et donc maintenant, il doit changer cette image, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est qu'il doit rassembler aussi ses amis européens. Parce que ce qui pourrait arriver de pire dans ce G7, c'est de se retrouver seul face à Trump avec les six autres séparés les uns des autres. Si les six autres ne font pas groupe, à ce moment-là, c'est foutu. Il faut savoir aussi que Trump, évidemment, il a besoin de relais, de courroies de transmission. Et il en a en Europe. Il a évidemment, dans le nouveau gouvernement de Salvini, il y a des courroies. Et puis, on sait bien qu'il y a des courants en France, en Pologne, en Hongrie, qui sont assez sur la ligne de Trump. Donc, Trump a tout intérêt à casser l'Union européenne. Et on sait bien que la cohérence au sein de l'Union européenne, c'est pas notre première qualité.
C'est, je crois, en effet. Allez, on va continuer à en parler dans un instant de ce G7. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Et les Européens disent niet au retour de la Russie dans le G7. C'était à la demande de l'Américain Donald Trump quelques heures avant son arrivée au Canada pour les discussions. C'est non, même si des chefs d'État et de gouvernement comme Emmanuel Macron évoquent toujours la possibilité d'un dialogue. La Russie a été sortie du G7 en 2014. Un couple de Tchétchènes soupçonné d'avoir séjourné en Syrie est en garde à vue ce soir dans les locaux de la DGSI. Ils ont été arrêtés l'un dans le Puy-de-Dôme, l'autre en Moselle, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, enquête qui doit permettre de déterminer s'ils ont bien séjourné en Syrie. Des perturbations à la SNCF jusqu'à demain matin, la fin du 14e épisode du conflit. Selon la direction, 13,68% des cheminots ont cessé le travail aujourd'hui. C'est le taux le plus bas depuis le début de la grève. Des mesures pour rassurer les salariés du groupe Air France KLM. La présidente par intérim Anne-Marie Couder les présentera jeudi prochain, alors que la compagnie aérienne traverse encore une crise sociale après l'échec de négociations sur les salaires. Et d'ailleurs, les syndicats viennent d'annoncer qu'ils étaient prêts à la grève du 23 au 26 juin à Air France. Grève, sauf s'il y a des avancées. Et le maillot jaune du Dauphiné est ce soir sur les épaules de l'Irlandais Geraint Thomas de l'équipe Sky. Dan Martin a remporté, lui, l'étape à Valoire en Savoie. 4 cols au programme demain pour la 6e étape jusqu'à La Rosière et toujours en Savoie.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du G7. Vous le savez, il a lieu en ce moment au Canada. Et une question ce soir, Donald Trump figurera-t-il sur la photo finale avec ses 6 autres petits amis, hein, parce que, eh bien, il n'est pas content en ce moment, Donald Trump. Enfin, ça barde, d'ailleurs, entre les autres. Et juste un tweet à propos qu'il a adressé à Justin Trudeau et également à Emmanuel Macron. C'est ce tweet en disant, pas de souci, en tout cas, j'ai hâte de vous voir pour vous expliquer. Voilà, tout simplement, c'était ça, le tweet de Donald Trump. Éric Scholl, on a appris là, à l'instant, que donc les Européens étaient contre le retour de la Russie, qui n'est plus dans le G7 plus 1 depuis l'annexion de la Crimée. Ce qui est intéressant dedans, c'est que l'Italie également s'est joint avec la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, alors que le Premier ministre Conte affirmait sur Twitter qu'il était pour à l'instant. Donc ça veut dire qu'on peut finalement négocier avec ce gouvernement. italien.
Avec l'Italie, ouais. Je pense que là, on est encore sur... C'est très débutant. Ouais. Et en plus, fait de briquet de broc, vraiment de tendances très différentes, à compter ensuite au président du Conseil comté d'essayer de rassembler ces deux grandes tendances. En tout cas, il y a quand même normalement, au départ, dans la campagne électorale italienne, un point commun entre les leaders du mouvement des 5 étoiles et de celui de la Ligue, c'est une proximité assez forte avec la Russie de Poutine.
D'accord. Alors, c'est vrai, celui qui m'énerve, est-ce que Emmanuel Macron, on l'a vu, il joue beaucoup sur l'international, il voyage beaucoup. Est-ce que ça a des incidences nationales, finalement, ce qu'un président peut faire à l'international ?
Ah, c'est l'éternelle question. Ouais. Vous savez qu'en général, quand ça va pas en France, on dit que le président va sur la scène internationale. Oui, c'est ce qu'on a vu beaucoup sous le quinquennat précédent, sous le quinquennat de François Hollande. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a eu une première période où ça se passait très bien d'un point de vue international. C'est-à-dire que il était un peu à la parade. C'est-à-dire que c'était l'autorité de l'État restaurée en France. C'était ce jeune homme de 39 ans qui a réussi à se faire élire en France contre Marine Le Pen, ce qui n'était pas rien. Donc, il y a eu comme ça une espèce de lune de miel avec, je parle sous contrôle des mais avec l'opinion, je ne sais pas s'il existe une opinion publique internationale, mais en tout cas l'opinion, on voyait dans la presse européenne, on voyait à la une aussi de revues prestigieuses aux États-Unis. Donc il y a eu cette période-là, mais ça peut pas durer éternellement. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se demander quels sont les résultats. Où est-ce que Trump a bougé après la visite d'Emmanuel Macron? Bah, sur rien. Alors, en même temps, on sait que faire bouger Trump, c'est très compliqué. C'est sans doute très présomptueux de penser le faire. Qu'est-ce qui a aujourd'hui changé dans la situation au Moyen-Orient? Bah, pas grand-chose. Est-ce que ça va mieux en Europe? Bah, non, on est en train de dire justement que, on va voir ce que donne la suite pour les Italiens vis-à-vis de la Russie. Mais on voit bien que tout ça est très, très compliqué et qu'il aimerait être chef d'un clan. Chef d'un camp, l'Europe, mais on voit bien que c'est très difficile d'être le berger de tous ces moutons-là.
Oui, Emmanuel Follon, c'est ça, c'est une difficulté d'être berger.
Oui, et puis c'est un risque à prendre, évidemment, parce que plus vous mettez de vent dans la Seine, si jamais ça tourne mal, vous êtes le premier à prendre les tomates. Mais il y a deux agendas par rapport à ça aussi qui sont greffés à ce qui se passe au G7. Le premier, c'est Trump qui joue aussi la politique nationale, parce que le fait de se faire passer pour le shérif du monde, le seul contre 6, pour lui, c'est le scénario parfait. En plus, c'est lui qui, a priori, a toutes les cartes en main, parce que on sait bien quelles sont les exportations des Allemands et des Français qui sont énormément tributaires de l'économie américaine, d'une part. Et puis, d'autre part, donc vous avez un peu le Chuck Norris, pour le dire autrement, le Chuck Norris politique aux États-Unis, qui joue sur du velours. De l'autre côté, vous avez Macron, qui lui pense aussi en termes, dans un an, ce qui va se passer, ce sont les élections européennes. Ouais. Et donc, il a tout intérêt à fédérer maintenant, parce qu'en plus, pour l'instant, les sondages sont assez bons pour une éventuelle liste européenne tirée par Macron. Il joue aussi cette carte européenne dans la perspective d'une élection européenne dans un an.
Fimo, je vois, juste pour terminer, on voit quand même, avec Donald Trump, un souci avec les instances internationales. Là, on le voit, il n'aime pas le G7, il n'aime pas l'ONU, il n'aime pas l'OTAN. C'est une position vraiment isolationniste, là, comme on peut voir aujourd'hui, l'Amérique en premier.
En même temps, ça fait longtemps qu'on démantèle les structures de concertation internationale, comme l'ONU par exemple, ça fait longtemps que les budgets sont réduits, ça fait longtemps que plus personne ne réagit à ce démantèlement. Donc il est fondé à dire, Trump, comme dans beaucoup d'autres domaines, je ne fais que prolonger, poursuivre, amplifier des politiques qui ont été installées par mes prédécesseurs. C'est peut-être ce qu'il y a de plus terrifiant. Après, il pousse la logique très très loin, mais c'est une logique qui était déjà en germe dans la situation internationale contemporaine.
Oui, Eric Scholz.
Oui, je suis assez d'accord, cette politique, elle a commencé précédemment. Maintenant, il y a aussi une rupture forte à la fois dans le style, dans la forme.
Dans le style,
il y a quand même le côté de Donald Trump lui-même qui est très électoraliste. Il s'occupe, lui, de ces élections qui vont avoir lieu mi-terme en novembre prochain aux États-Unis. Pratiquement la plupart de ses actions sont conduites dans un but électoral américain. Okay, et il essaye d'être en adéquation avec ses promesses qu'il a faites pendant la campagne présidentielle.
Emmanuel Fon.
En tout cas, ce G7, il a ce mérite-ci aussi, c'est de faire rendre compte aussi à tous les citoyens que l'union de l'Europe n'a jamais été aussi importante et la cohésion de l'Europe n'a jamais été aussi importante que maintenant. Et je reviens avec l'histoire des élections européennes. Ça va sûrement être un argument électoral parce qu'on a de plus en plus de courants populistes, voire anti-européens. Mais si vous êtes seul à négocier face aux États-Unis, face à la Chine, seul vous n'êtes rien, que vous soyez la Belgique, la France ou l'Espagne. Donc vous avez besoin d'être ensemble et ça reste évidemment un argument impeccable pour la campagne électorale de 2019.
Alors là, quand même, il se passe une chose intéressante parce que là, en même temps, on regarde les images au G7. Ils se positionnent pour la photo officielle et on a aperçu juste derrière Donald Trump. Donc qui pourrait donc figurer sur cette photo donc officielle, alors que lui-même l'avait annoncé qu'il n'irait pas, qu'il boudrait d'ailleurs. Regardez, voilà, il est là justement, il est aux côtés d'autres dirigeants européens, Donald Tusk, voilà, donc il va, Donald Trump, donc il devrait figurer, il est aux côtés de Justin Trudeau, qui devrait figurer donc sur cette photo officielle. Donc ça voudrait dire quoi, Eric Chauss? Ça voudrait dire qu'il revient, voilà, il apaise un petit peu la tension.
Vous savez, il y a quand même ce côté absolument imprévisible. Il a encore déclaré ce matin à propos là du sommet qui aura lieu à Singapour, parce qu'il a quand même plein d'agendas.
Alors Singapour, c'est avec Kim Jong-un, en effet, c'est
avec Kim Jong-un. Il a déclaré que c'est un sommet qui ne se préparait pas. Il a ce côté un peu instinctif, et donc il peut très bien avoir décidé qu'il ne figurerait pas sur la photo il y a quelques heures et se dire qu'il peut y être maintenant.
Voilà, et là en effet, là il le voit, il est juste à côté de Justin Trudeau et Angela Merkel. Voilà.
Le caractère imprévisible de Trump, c'est sa meilleure arme en communication, à la fois interne et internationale, parce que personne ne sait comment gérer ça. Mais c'est une arme, c'est une stratégie, et ça marche formidablement bien.
Et ça marche pour vous, enfin, c'est efficace, c'est pour ses électeurs, c'est pas
pour vous. Qui a mis en difficulté Trump récemment? Qui a mis en difficulté Trump récemment? Personne.
C'est la fameuse théorie, d'ailleurs, qui a fonctionné aussi avec la Corée du Nord, la douche écossaise.
Quoi. Absolument.
Un coup de chaud, un grand coup de froid, et c'est vrai qu'il mène son monde à la baguette, c'est le dire.
Et donc, en tout cas, voilà, donc cette photo est faite, donc tout le monde est content, voilà, hein, Theresa May, en tout cas.
Ça n'a pas duré très longtemps.
Oui, non, ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, elle est faite, cette photo. Oui,
rappelons-nous juste, il y a un an, le dernier G7 qui avait lieu en Sicile, en tout cas en Méditerranée,
c'est lui, il y avait la fameuse poignée de main entre Emmanuel Macron.
Entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau, la poignée de main avec Donald Trump, c'était à l'OTAN, quelques jours plus tôt. Mais on avait vu pendant ce dernier G7 un Donald Trump déjà tout seul, et on avait déjà en tête ce qui pouvait arriver, c'est-à-dire cet isolement des États-Unis. Et on le voit depuis à l'œuvre, parce que pratiquement sur tous les domaines, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'OTAN, que ce soit le commerce, l'Iran, le climat, on a vu petit à petit toutes ces décisions se décliner au fur et à mesure.
Il y a ça, en effet, Emmanuel Fond, mais de voir que finalement, en effet, il veut s'isoler, mais il est quand même là, avec la photo. Donc, il pourrait très bien dire, je m'en fiche, quoi. Là.
D'un point de vue, comme vous remarquerez, c'est pas du tout innocent, parce qu'il est arrivé encadré par l'Italien et par Jean-Claude Juncker, alors que Macron est arrivé depuis bien longtemps avec Trudeau et le Chinois. Donc, je pense que tout ça a été calculé par les uns et les autres. Et vous remarquerez ensuite qu'il y a eu une longue aparté, ça a duré des secondes, mais à mon avis, pour Trump, ça a paru des heures, entre Trump et Merkel. Et tout ça aussi n'est pas innocent.
Ouais, voilà, toujours. Et pas avec, en effet, ni Justin Trudeau, ni Emmanuel Macron devant ses caméras donc du monde entier. Allez, dans un instant, on va revenir en France pour parler de politique et de comptes de campagne. Et oui, hein, il faut gérer son portefeuille. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron et Donald Trump se sont finalement rencontrés ce soir au Canada avant la photo de famille du G7 à la demande du président américain. Selon une journaliste de France Info présente sur place, ils ont parlé commerce mais également de la Corée du Nord. Cette information surprise ne change rien au long entretien en tête-à-tête que les deux hommes ont maintenu à 23h40 heure française. Chère France, l'intersyndicale lance un nouveau préavis de grève du 23 au 26 juin. La grève, sauf s'il y a d'ici là des avancées avec la compagnie aérienne. Et avant cela, la présidente par intérim, Anne-Marie Couder, annonçait son intention de rencontrer les représentants du personnel la semaine prochaine pour pouvoir rassurer les salariés. Les obsèques de Kevin à Mourmelon-le-Grand dans la Marne aujourd'hui. Un millier de personnes étaient rassemblées dans et devant l'église. L'adolescent a été tué samedi dernier dans un parc de la commune. Deux suspects de 17 ans dont sa petite amie sont mises en examen depuis pour assassinat. En Syrie, le bilan passe à au moins 51 civils tués, dont plusieurs enfants. La suite des attaques attribuées à l'aviation russe dans la zone de Zardana, selon l'Office syrien des droits de l'homme. Et puis Daesh reprend une partie de la ville de Boukamal dans l'est du pays, avec au moins 25 morts. En route pour la finale pour Rafael Nadal, l'Espagnol a remporté cet après-midi son match à Roland-Garros face à l'Argentin Del Potro pour sa 11e finale porte d'Auteuil. Nadal va retrouver Dominic Thiem pour qui ce sera la première en Grand Chelem.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors depuis les révélations de la cellule enquête de France Info sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, Nous vivons sous tension. Voilà, autant vous le dire. C'est très bien la liberté de la presse, mais bon, ça va 5 minutes aussi, hein. Donc, impossible de boire un verre d'eau sans penser qu'il y a du poison à l'intérieur. Je vérifie sans cesse les freins de mon scooter. Et le vol d'une mouche a provoqué cet après-midi une panique dans la rédaction quand le spécialiste défense de France Info a parlé d'un drone miniature. On n'en peut plus, hein. Hier, donc, nous vous révélions que le candidat d'En Marche a bénéficié de ristournes pendant sa campagne, notamment pour des réunions dans des théâtres parisiens, alors que ce genre d'arrangement est interdit par le code électoral. De plus, ses comptes ont été validés, donc difficile de revenir dessus. Nouvelle révélation ce matin, selon un document interne, je cite, la commission admet en principe que des rabais ou des remises puissent être accordées dans une limite maximale comprise entre 15 et 20%. En cas de dépassement, la commission doit engager une procédure contradictoire pour rejet des comptes. Or, les ristournes concernant Emmanuel Macron iraient jusqu'à 75%. Alors, y a-t-il une faille dans la vérification de ces comptes? Mais quelle drôle de question, vraiment. Le président de la commission des comptes de campagne, François Laugereau.
Je ne connais pas d'organisation absolument infaillible et qui remplit dans à la perfection sa mission dans 100% des cas.
Reconnaissez-vous avoir failli?
Non, je ne reconnais pas que
vous
la commission
a failli. Vous disiez à l'instant que nous
non,
ne sommes pas infaillibles.
Je ne reconnais pas du tout. Ce travail, encore une fois, est fait avec le plus grand sérieux.
Voilà, François Laugereau, ce matin, aux côtés de Bruce Toussaint sur France Info, Soïd Kemener, les comptes ont été validés, mais est-ce que ça jette un discrédit, justement, sur cette commission de vérification des comptes de campagne?
Oui, et ce n'est pas la première fois, hein. Il faut se souvenir, en 2012, Nicolas Sarkozy, alors il est épinglé par la commission pour des dépassements de comptes de campagne de 300 000 euros, et puis après, quand l'affaire Big Malion éclate, mais on découvre que ce n'était pas 300 000 euros, c'était 18,5 millions selon les premières informations de selon les informations de justice. Je rappelle que l'affaire suit son cours, donc on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais en tout cas c'est pas le rapport et la différence est assez importante. Donc effectivement il y a une question sur les moyens que cette commission et sur les elle a aucun moyen d'investigation, c'est-à-dire qu'ils valident ce qu'ils reçoivent, ils sont finalement très peu nombreux, ça dure très peu de temps. Regardez, c'est pas un hasard si on reçoit tout en décalage, hein. Il faut toujours le rappeler, pour que les journalistes aient accès aux comptes de campagne il faut s'inscrire, il y a une liste d'attente. Et c'est pour ça d'ailleurs que France Info sort ça en décalage par rapport à d'autres médias. Parce que
le Monde Mediapart déjà.
Voilà, parce que sans doute que vos journalistes ont eu accès après, donc ils ont fait leur travail, ça prend du temps et ensuite les informations sortent. Donc imaginez la commission des comptes de campagne, ils ne sont pas très nombreux, il faut examiner les comptes de tous les candidats et vous vous retrouvez avec, avec des comptes qui finalement ne sont validés mais de manière totalement superficielle.
C'est
ce qu'on découvre là et c'est terrible. C'est d'autant plus terrible d'ailleurs qu'on était dans une élection présidentielle tout à fait particulière. C'est pour ça aussi que ça fait autant de bruit. C'est-à-dire qu'il y avait ce candidat, je reprends l'expression qu'utilisait François Hollande hier soir devant la Fondation Jean Jaurès, il a dit le candidat venu nulle part. Parce que lui, il s'en remet toujours pas.
Mais il n'y avait
pas de parti, il n'y avait pas de base, etc. Il n'y avait pas de don auparavant. Donc il y avait quelque chose de totalement nouveau. Et c'est vrai que la commission est totalement surdimensionnée. Et c'est vrai que l'argument que vous citiez tout à l'heure des rabais est hallucinant.
Ça ne tient pas. Alors, Philippe Chevalet, ce soir, Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi s'est fait retoquer, réclame un nouvel examen public des comptes de campagne. Il dit faut tout remettre à plat, là, parce que ça suffit.
Maintenant. Oui, il a raison. On voit beaucoup d'élus aussi sur Twitter qui disent, mais attendez, moi, on m'a embêté pour un chèque. Et c'est vrai.
Localement, c'est très compliqué.
Je conseille des gens en campagne pour qui un chèque de 5, on vient les embêter pour un chèque de 50 euros, une dépense de 100 euros, une dépense d'essence. Et ils se retrouvent face à des gens qui, effectivement, ont un dépassement de 18 millions à qui on dit pas grand chose. Mmh. Et puis, quelqu'un qui, effectivement, a eu des rabais de 75%, ce qui effectivement correspond à une forme de cadeau, on ne peut pas appeler ça autrement. Après, il y a une hypocrisie terrible sur l'argent politique. Il faudrait peut-être qu'on repense les lois sur le financement, peut-être qu'on se pose la question de savoir pourquoi ça arrive d'une manière aussi systématique. Ça date quand même des années Rocard, ce puritanisme en matière de financement des partis politiques en campagne. Peut-être que ça correspond plus à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Avoir 1 euro par personne pour faire campagne pour être élu président de la République, c'est peut-être pas suffisant.
Oui, voilà. Emmanuel Fon, comment vous voyez ça justement, vous, de l'outre-Quiévrin, comment vous voyez...
En Belgique, on dépense des sommes considérables en communication publique.
Évidemment. Justement, ce rapport de la politique et de l'argent en France.
Ben vous savez qu'il y a des commissions de contrôle à peu près dans tous les pays. Et comme par hasard, j'ai été voir ce qui se passait en Belgique, chez moi. Et la différence, c'est que la commission d'enquête a un vrai pouvoir et peut prendre des sanctions. Alors ça va de l'avertissement, il y a une retenue de l'indemnité de l'élu, mais il y a aussi une suspension de mandat et on peut aller jusqu'à la déchéance du mandat. Et ça me paraît visiblement logique parce que vous êtes un peu comme dans une course de Formule 1. Si vous gagnez la course de Formule 1 mais qu'ensuite on découvre que votre moteur est trafiqué, ben vous êtes déclassé. Ici ça pose de vraies questions. Et en plus on vient d'un Macron qui a fait une politique en disant ben voilà la politique autrement, c'est un de ses slogans. Ben, on constate que finalement on renoue avec le passé, on renoue aussi avec ce qu'avait fait Sarkozy 5 ans plus tôt. Et ça donne, que ce soit vrai ou pas, à la rigueur, le problème, il est de nouveau pour l'image de Macron, parce que ça donne cette impression que c'est le président des riches, parce que vous savez qu'on ne prête qu'aux riches. Ça a commencé avec les APL, ça a été le système de taxes, ça a été l'impôt sur la richesse. Et donc, on est vraiment dans cette image de président des riches qui est encore ici consolidée.
Mais, Éric Scholl, sur cette commission, pour vous, faut revoir finalement cette commission.
Je pense qu'il faut la revoir complètement. Parce que soit elle fait bien son boulot, et donc dans ce cas-là, parfait, on lui fait confiance. Mais à partir du moment où on reconnaît aujourd'hui qu'il y a eu des dépassements, et des dépassements au-delà de ce que le président lui-même appelle de l'acceptable, c'est-à-dire ces fameux 20%.
C'est pas des dépassements, c'est des arrangements, en fait. Là. C'est là où c'est interdit, en fait, véritablement.
Et donc on se dit, mais à quoi elle sert? Si elle ne peut pas sanctionner, ce qu'il dit, ben non, on peut rien faire. À quoi ça sert? Or, pourtant, cette commission, elle a été mise en place pour ça. Elle a. Il faut peut-être revoir aussi la composition de cette commission. On a 9 personnes qui sont quand même, excusez-moi, mais des vieillards, hein,
oui,
82 ans.
82 ans pour François le président, Longeron. Exactement.
Peut-être qu'à un moment, on peut se dire qu'on met effectivement quelqu'un qui viendrait de la Cour des comptes, mais qui n'est pas à la retraite depuis 2004, comme c'est son cas pour lui aujourd'hui.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. On parlera également François Hollande, justement. On parlera également du tract des Républicains. Ce sera très politique pour terminer cette semaine. On vient dans quelques minutes pour les informer de France Info.
C'est la semaine de la coopération agricole.
Les coopératives agricoles vous ouvrent leurs portes pour échanger, déguster ou s'amuser en famille ou entre amis.
Découvrez le programme sur lacoopérationagricole.coop.
Coopérer, c'est agir ensemble pour le bien commun.
Politique, culture, international, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2. Ouvrez l'info.
France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Nouvelle dégradation orageuse. Dès ce soir, les orages prennent de la vigueur de la Bretagne vers l'intérieur des Pays de la Loire et la Normandie avec de la grêle et surtout des quantités de pluie importantes sur des sols déjà saturés, donc soyez très prudents. Demain, on retrouvera un ciel chahuté sur le nord-ouest avec des orages encore forts, plus d'éclaircies en descendant vers l'Aquitaine, un risque d'ondées. Ça deviendra orageux l'après-midi. Ce temps pourrait gagner la région parisienne et le centre en soirée. En attendant, plus à l'est, la matinée sera très agréable, ensoleillée. L'après-midi, ça deviendra lourd, on ne sera pas à l'abri d'un orage isolé, surtout en montagne. Il fera plus chaud, entre 25 et 29 degrés. Ça baissera sur les côtes de l'ouest, 18 à 25 degrés attendus. Dimanche, des orages encore forts des côtes de la Manche vers le bassin parisien, le centre et le Limousin, puis jusqu'au sud-ouest, avec des pluies parfois intenses, de la grêle. Et puis sur le nord-est, on aura quelques orages isolés, même chose en montagne.
France Info.
2. Ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Ils sont soupçonnés d'avoir séjourné en Syrie. Un couple de Tchétchènes est en garde à vue ce soir dans les locaux de la police. À Paris, ils ont été arrêtés en Moselle et dans le Puy-de-Dôme. Une trentaine de victimes du Bataclan portent plainte pour non-assistance à personne en péril. Elles veulent savoir pourquoi les 8 militaires de l'opération Sentinelle, présents près de la salle de concert parisienne le soir des attentats, le 13 novembre 2015, n'ont pas eu le droit d'intervenir. Fin de la grève de la faim, l'hôpital psychiatrique du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen. Après 3 jours de négociations tendues, l'intersyndicale et l'ARS, l'agence régionale de santé, ont fini par tomber d'accord. 30 créations de postes, une unité dédiée aux adolescents et une autre aux détenus. Les syndicats ont réclamé 52, mais s'estiment satisfaits de cet accord. À l'instar de Sébastien Asquette, il est délégué CGT.
C'est des créations d'emplois, les financements sont pérennes, on n'y reviendra pas. Ça augmente le nombre de soignants dans l'hôpital du Rouvray. Et enfin, on peut dire que ça, c'est une avancée, quoi, parce que c'est ce qu'on demande depuis le début. Il y en a 30, on en demandait un peu plus, mais l'effort de l'ARS est louable. Alors le financement, ça a été très clair aussi, ça a été d'ailleurs une discussion dès les débuts des négociations avec Madame Gardel. Le financement pour le Rouvray, ce qu'on a négocié après pendant 2 jours, il était bien sûr sans contrepartie par rapport aux autres établissements de la région. Voilà, ça a été dit. Donc c'est vraiment une enveloppe supplémentaire, ou en tout cas c'est un montage autre qui permet de ne pas toucher aux enveloppes des autres établissements.
Et il n'est plus question de redéploiement.
Non, aucun redéploiement.
Sébastien Ascouet, délégué CGT à l'hôpital psychiatrique du Rouvray, avec Ken Bertrand de France Bleu Normandie. À l'étranger, 43 civils, dont des enfants, tués dans la province d'Idleb en Syrie lors de raids attribués à l'aviation de la Russie, alliée du régime syrien. Bilan fourni ce soir par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Autriche, le gouvernement conservateur lance une spectaculaire offensive contre l'islam politique. Fermez les guillemets. Elle devrait conduire à l'expulsion de dizaines d'imams et la fermeture de 7 mosquées en Autriche qui étaient financées par la Turquie. Une brève rencontre d'une dizaine de minutes ce soir entre Donald Trump et Emmanuel Macron au Canada en marge du G7. À l'initiative du chef de la Maison Blanche, l'entrevue officielle entre les deux hommes a, elle, finalement été reportée à ce soir, peu avant minuit, hors de Paris, sur fond de grogne face aux nouvelles taxes américaines décidées sur l'acier et sur l'aluminium. Il visera après-demain un 11e sacre historique. Rafael Nadal est qualifié pour la finale de Roland-Garros. L'Espagnol, sans surprise, a battu l'Argentin Juan Martín del Potro en 3-7, 6-4, 6-1, 6-2 et un peu plus de 2 heures de match porte d'Auteuil. En finale, Nadal affrontera donc dimanche l'Autrichien Dominic Thiem, le seul joueur à l'avoir battu sur terre battue ces 2 dernières saisons. Il est 20h33 sur France Info, les informés, deuxième mi-temps.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, au grand bal de l'actualité, ils n'avancent pas masqués, ohé ohé, non pas du tout. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le communicant Philippe Moreau-Chevrolet, Soizic Kemener, de Marie-Anne-Éric Scholl, directeur de Courrier International, et Emmanuel Foulon, porte-parole de la délégation belge au Parlement européen. Encore un mot à propos de cette affaire de compte de campagne d'Emmanuel Macron. Ce matin, on apprenait donc qu'il y avait un large dépassement, notamment autorisé par le code de la commission des vérifications des comptes de campagne. Une chose tout de même, Soizic Kemener, les équipes d'En Marche, en fait, eux, ils disent il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, on est simplement des bons négociateurs de prix. Est-ce que ça tient comme argument?
Non, alors, sur certains aspects, ça tient. C'est-à-dire que ça tient, par exemple, sur la mutualité qui avait été réservée, vous vous en souvenez, au mois de juillet, mais au mois de juillet 2016. C'était le premier grand meeting d'Emmanuel Macron. Donc, on peut penser que, hors période électorale, si on compare à un meeting de François Fillon, par exemple, pendant la période électorale, ou un meeting d'un autre candidat, et un meeting hors période électorale, là, il peut y avoir une différence. En revanche, sur les théâtres parisiens, qui ont été visiblement presque prêtés gracieusement, même s'il y a une partie qui a été payée, mais c'est très très faible par rapport à ce qu'il aurait dû être, là, oui, il y a une vraie question. Et donc, non, l'argument ne tient pas, mais c'est la force de ce qui se passe. C'est-à-dire que la commission valide, mais on a l'impression que la commission, elle a validé. Puis à un moment, pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, elle a dit quelque chose qui, à mon avis, est très difficilement audible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon s'insurge, même s'il a mis du temps à le dire. Elle dit, on valide, mais on transfère à la justice pour vérification. Oui. Et on se dit, mais alors, vous servez à quoi?
Oui, c'est ça, oui, c'est ça le problème, en fait, non?
Mais oui, mais à ce tarif-là, c'est du parrainage ou du sponsoring. Et il y a 2 semaines, on a eu exactement la même conversation en parlant de Trump et en parlant des États-Unis, où on était scandalisé du fait que la NRA sponsorise tous les députés et à la fin, qu'une proposition de loi sur les armes soit refusée fatalement parce que ces gens sont sponsorisés. Et dans ce cadre-ci, que ce soit Macron ou d'autres, à partir du moment où vous avez une braderie totale et des prix qui sont totalement anormaux, il y a suspicion et de nouveau, vous violez la confiance qu'il y a entre les citoyens, pour peu qu'il y ait encore de la confiance entre les citoyens et les institutions.
Philippe Moreau-Chevrolet, c'est vrai que cette semaine, il y a eu, depuis la semaine dernière, pardon, il y a eu l'affaire Colère, maintenant les comptes de campagne. Est-ce que c'est un moment difficile ou finalement ça glisse sur le gouvernement?
Non, c'est quand même un moment difficile. Après, il a survécu quand même, souvenez-vous, à 4 démissions de ministres pour affaires au début de son quinquennat, on s'en souvient plus trop.
C'est vrai.
C'est l'accumulation des affaires qui l'atteint forcément, ça le discrédite. Colère, c'est très embêtant pour lui parce qu'il y a vraiment un problème et qu'il ne peut pas le virer, en quelque sorte. Hulot s'est retrouvé un peu dans la même situation. On a un certain nombre d'otages au gouvernement ou autour de Macron. Il va falloir quand même résoudre ces questions-là. On ne peut pas éternellement les mettre sous le tapis. Moi, je suis pour un système assez simple de transparence en matière de comptes de campagne. C'est-à-dire qu'en temps réel, on connaît baisse. Les sommes qui sont payées, qu'on les paye au vrai prix, parce qu'en tant que professionnel, moi, j'ai intérêt à ce qu'on me paye au vrai prix.
Bien sûr.
Je veux pas rentrer dans un système où je fais un prix, enfin, je fais payer rien du tout, en espoir plus tard qu'on m'enverra un marché public parce que je suis sympathique. Ça tue la démocratie, ça tue nos métiers parce qu'on est discrédité en tant que professionnel. Il faut quand même le dire, on est discrédité dans ce type d'affaires. Et la transparence en temps réel, je trouverais ça bien, en fait.
Voilà. Et Éric Chaud, en matière de transparence, il n'y a pas d'ancien et de nouveau monde. Finalement, tout le monde est.
Écoutez, Julia Cagé va sortir un livre à la rentrée qui s'appelle, je crois, Le prix de la démocratie, et qui est en fait exactement sur ces questions. Et on s'aperçoit, on l'a vu depuis longtemps aux États-Unis, à quel point l'argent et le financement des campagnes finit par perturber même l'idée même de démocratie. Et donc, il est temps de remettre les choses à plat. On voit en tout cas que cette commission, elle ne fonctionne pas.
Oui, alors, donc, on imagine bien que peut-être un jour ça se posera, parce qu'on ne connaît aucun président qui a voulu réformer, hein, d'ailleurs, cette commission. C'est ça qui est bizarre, d'ailleurs.
Ah non, c'est pour ça qu'on a l'impression d'être dans une impasse totale, parce qu'on imagine mal là, Emmanuel Macron dire bah, regardez, ça ne va pas du tout, la commission des comptes de campagne, il faut faire quelque chose. Donc, c'est injouable. D'accord. Donc, on va avoir les opposants qui vont dire.
Il
n'y
a pas de limite d'âge, parce qu'il a quel âge ? Il a
82 ans.
Il n'y a pas de limite d'âge, la commission des comptes de campagne.
Mais en même temps, on peut aussi être vif, hein, parfois.
Remarquez, Jacques Chirac a bien fait le quinquennat alors qu'il se l'applique à lui-même. Donc, il peut y avoir des espoirs.
Allez, en tout cas, on verra bien ce qui se passe. Allez, au niveau politique, on va parler un peu du Parti Socialiste, parce que figurez-vous que le Parti Socialiste est peut-être confronté à la pire crise de son histoire, que l'on pourrait baptiser le retour de l'ex. Alors, c'est vrai que dit comme ça, ça fait un peu théâtre de boulevard, genre ma femme est sortie ou Saturday Brunch Fever. Comment lui dire qu'on ne veut plus de lui sans le vexer ? Le Parti Socialiste ne sait plus quoi faire avec François Hollande. Succès en librairie avec son livre Les Leçons du Pouvoir, des fils sans fin dans les librairies, des interviews, des confidences et un inventaire qu'il fait lui-même. Hein, puisque rares sont ceux à se presser pour le faire à sa place. Dans ce cadre, l'ancien chef de l'État a évoqué hier son mandat de président puisqu'il était invité par la Fondation Jean Jaurès et Monsieur Petite Phrase is back. Tacle pour les frondeurs, une loi travail mal ficelée et un mantra bien travaillé. Je cite, je suis de l'ancien monde, celui de la démocratie. Et ouais, Hollande, c'est bien cool. Enfin, ça, c'est l'opinion de l'ancien ministre des Finances, Michel Sapin.
Très simplement, il ne pensait pas, en écrivant son livre et en allant pour les premières rencontres avec les Français, qu'il y aurait un tel phénomène. Donc, il faut analyser ce phénomène politique et ne pas le personnaliser. Il y a une part de forme de reconnaissance des Français qui viennent le voir. Mais c'est surtout un phénomène politique d'aujourd'hui. Oui, il existe un terrain entre Mélenchon et Macron, un terrain politique. Il existe des électeurs, il existe des gens qui ont envie d'agir sur ce terrain. Il est ouvert à tous.
Mais vers qui ces électeurs pourraient se retourner, Philippe Moreau-Chevrolet ? C'est bizarre, entre Mélenchon, Macron, mais qui pourrait y avoir ?
Moi, je croyais qu'il y avait un mec qui s'appelait Olivier Faure, mais alors il semble qu'il ait disparu derrière le bulldozer Hollande.
Je précise, c'est celui qui dirige le PS aujourd'hui.
Oui, ben pardon, oui, c'est le... Ouais.
Non, mais est-ce que là, en fait, on est de nouveau, finalement, Philippe, dans un fantasme de retour, comme il y a eu avec Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy...
On est là-dedans, et puis on est dans une tentative surtout de réhabilitation de soi-même qui est assez effarante. Remettons les choses à leur place. Quand Hollande prend le pouvoir, le Parti Socialiste contrôle la plupart des municipalités, les régions. Le Sénat pour la première fois dans son histoire, si je ne me trompe pas, et l'Assemblée nationale et la présidence. Il a tous les leviers du pouvoir. 5 ans après, il n'y a plus rien. Le Parti Socialiste est réduit à faire moins de 6% au final, et il se retrouve à ne plus avoir même son siège rue de Solferino, qui, rappelons-le, est en vente.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Donc on est quand même, enfin, je veux dire, qui viennent après faire la leçon aux socialistes qui ont besoin de se reconstruire, qui tuent Olivier Faure dans l'œuf, parce que le pauvre Olivier Faure, il n'existe plus. C'est accablant. Voilà.
Ah, c'est accablant. Mais pourtant, et on a l'impression, on voit des gens qui viennent se faire signer aussi. On voit un public.
Quand Sapin dit ce n'est pas une affaire personnelle, la politique, précisément, qu'il arrête d'en faire une affaire personnelle et qu'il comprenne ce que c'est comme affaire politique. Ça ne se limite pas à sa personne, le Parti Socialiste. Et la gauche a le droit d'exister au-delà de François Hollande.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Avec ce nouvel appel à la grève à Air France, sous condition, les syndicats appellent ce soir les salariés à cesser le travail du 23 au 26 juin, sauf s'il y a des avancées dans les discussions avec la direction. Et la présidente par intérim, Anne-Marie Couder, annonçait dès cet après-midi qu'elle ferait la semaine prochaine des propositions pour rassurer, dit-elle, les salariés. Donald Trump et Emmanuel Macron se sont finalement rencontrés ce soir au Canada avant la photo de famille du G7 à la demande de Donald Trump. Selon une journaliste de France Info, présente sur place. Les deux présidents ont parlé commerce, mais aussi de la Corée du Nord. Et ils se verront de toute façon plus longuement et comme prévu à 23h40 heure française. À Gaza, au moins 3 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par des tirs israéliens. Le nouveau bilan établi par le ministère de la Santé palestinien lors d'affrontements qui se produisent depuis quelques jours aux abords de la frontière. Un photographe palestinien de l'agence France-Presse est également blessé. Rafael Nadal visera dimanche un 11e sacre à Roland-Garros. L'Espagnol a battu en 3-7 l'Argentin Juan Martín del Potro. Nadal va retrouver en finale Dominic Thiem, dont ce sera la première finale en grand chelem pour cet Autrichien. Et puis l'avenue Jacques et Bernadette Chirac est inaugurée ce soir pour la plus grande fierté de la femme de l'ancien président de la République qui était présente. Qu'une avenue de Brive porte le nom de Jacques et Bernadette Chirac, c'est un grand honneur pour moi et ma famille. Au micro de France Bleu Limousin, l'ancienne première dame a rappelé son attachement à la Corrèze.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Il n'a pas encore son avenue, mais peut-être qu'elle coupera celle Jacques et Bernadette Chirac qui est en Corrèze, puisque c'est un autre Corrézien, c'est François Hollande. Hein. François Hollande, vous le voyez beaucoup en ce moment, son livre marche très fort, et hier, il faisait lui-même son propre bilan de son quinquennat. Emmanuel Foulon, comment vous le voyez aujourd'hui, justement, François Hollande? Est-ce qu'on est encore dans quelqu'un qui cherche à se réhabiliter lui-même, c'est ça?
Oui, totalement. Mais ceci dit, on peut s'estimer heureux qu'ils n'ont pas créé à l'époque une rue Ségolène Royal et François Hollande, parce qu'on aurait dû changer le nom depuis.
C'est vrai.
Mais dans ce qu'il a dit Hollande hier, il a rien dit qu'on ne sache déjà. Il a dit que voilà, Mélenchon, il regrettait d'avoir voulu flinguer le PS, je le cite.
C'est ça, oui.
Il regrette que Pygmalion, son ex-ami Macron, soit parti sans se retourner. Ça, on le savait aussi. Il faut les reconnaître quand même à François Hollande, parce qu'on aime bien le flinguer, mais il est resté humain tout au long de son mandat. Mais je pense précisément que ce n'est pas ce que les Français attendent d'un président. Les Français, ils attendent quelqu'un, ils attendent un super-héros. Et oui, les Français, ils attendaient Superman. Et finalement, ils n'ont eu que l'homme qui faisait tomber la pluie.
Ouais, c'est ça. Sozy Kemener, c'est vrai qu'on a toujours cette impression, quand un président n'est plus au pouvoir, d'un coup, il est bien. C'est terrible.
On se souvient de
Nicolas Sarkozy avait eu un succès en librairie aussi. Je crois, hein, j'ai consulté mes archives, Valéry Giscard d'Estaing, quand il a perdu en 80, fait un livre et qui marche d'ailleurs en librairie aussi. Ça veut dire qu'ils sont curieux de ce que deviennent leur ancien président.
Pendant 5 ans, il a été la France, hein, c'est ça, ouais, le président de la République. Donc évidemment, il reste marqué par ça. Mais alors, ce qui me frappe, c'est que je trouve que on a fait beaucoup le parallèle entre ce qui se passait avec Nicolas Sarkozy, avec son éternel retour et ses livres et ses tournées. Souvenez-vous, il accompagnait sa femme Carla Bruni lors des concerts, etc. Et ce qui se passe là. Alors, c'est vrai, il y a quelque part un besoin de réhabilitation, un besoin de retrouver des personnes qui, il le disait hier soir, je suis allée l'écouter. Plaisir de se retrouver dans un environnement de personnes souriantes qui sont prêts à accueillir son message. Ça, c'est une chose. Mais il est en train de faire autre chose, François Hollande. Il est en train de dire, c'est pas moi, c'est pas François Hollande, je suis la social-démocratie, je suis l'humanisme. Et d'ailleurs, dans toutes les critiques en creux vis-à-vis d'Emmanuel Macron, il est assez fort dans sa critique. Je vous dis pas qu'il va revenir reconquérir le pouvoir. C'est
vous,
pas ça. Mais je pense que c'est lui qui fait. Il fait beaucoup de mal à Emmanuel Macron. Regardez les manifs du 1er mai. Première dépêche. Je regardais la première personne qui dans le cortège syndical qui répond à un journaliste et ça tombe sur l'agence France Presse. C'est François Hollande a raison. Macron n'est pas le président des riches. C'est le président des très riches. Il a signé le slogan politique de ce printemps.
Ouais, c'est trouve. Ça, Éric Scholl. Pour vous, il est c'est un observateur ou alors finalement encore quelqu'un, comme on le disait avec Philippe Moreau-Chevrolet, qui se dit bah, « pourquoi pas ?» voilà,
il est observateur, part. Il est meurtri, profondément meurtri par le manque de considération d'Emmanuel Macron à son égard au cours de cette première année. Et du coup, il y a un côté de revanche, on sent qu'il adore ça, qu'il a envie d'y retourner. Il n'a pas compris ce qui s'est passé l'année dernière, visiblement, parce que le dégagisme, bien sûr, Emmanuel Macron arrive, et à nouveau, on peut dire, bon, mais le dégagisme ne concerne pas uniquement l'arrivée d'Emmanuel Macron. Ce qui s'est passé aux législatives, c'est l'ensemble du personnel politique qui a commencé à changer. Il ne veut pas en prendre la mesure. Tout à l'heure, on rappelait quand même ses échecs, mais le 6,5% de Benoît Hamon au premier tour des présidentielles, c'est quand même, bien sûr, c'est pas lui qui se présente, mais 6,5% pour le candidat socialiste. Et au premier tour des, et aux législatives, moins de 10%, le plus mauvais score des socialistes depuis le début de la Ve République. Il en a forcément sa part. Donc, qu'il essaye aujourd'hui de réhabiliter son bilan, on peut le comprendre, mais vouloir revenir, il y a un moment, il faut aussi tirer les conclusions de ce qui s'est passé l'année dernière une chose, en changement politique.
Ce qui est bien, vous qui suivez la politique, minute par minute presque, est-ce qu'il veut revenir ou pas, François Hollande, d'après vous?
Bien sûr, mais il en boue.
Il en boue.
Non, mais regardez ce qu'il fait. Il fait sa tournée dans les librairies et il fait les sections socialistes. Il faut avoir envie quand même, parce que de ce qui reste des sections socialistes, il y a toujours un maillage territorial.
Bien sûr.
Mais il faut, on ne fait pas ça pour rien. Donc effectivement, oui, il attend que ça. Et d'ailleurs, c'était très, très sensible. Hier soir, on n'était pas dans l'inventaire. On était déjà, parce qu'il y a des choses intéressantes qu'il a dit hier soir. Notamment, il parle de la Constitution et puis il dit oui, cette diarchie, Premier ministre, Président de la République, ça ne marche pas. Le président sous le quinquennat, ça ne marche pas. D'ailleurs, il faudra penser, lors de la prochaine élection présidentielle, il faudra une réforme constitutionnelle en ce sens. D'accord. Donc c'est un début de programme. Donc c'est très, très net.
Emmanuel Font.
Mais je ne pense pas qu'il veuille se représenter comme président. Peut-être aussi. Hein, mais ce qui lui manque, c'est d'être important. Et je pense que c'est ça vraiment. Et
en France. Il s'ennuie, en fait, vous pensez.
Oui,
en fait,
c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Parce que justement, c'est un peu. Alors aujourd'hui, je ne parle que de cinéma, mais c'est un peu comme Mad Max. Il a eu un monde florissant derrière lui et subitement, c'est le désert total. Le PS, il n'y a absolument plus rien. Donc je pense sincèrement, ce qui lui manque, c'est d'être important, de devenir une pierre angulaire. Sarkozy, ça a été exactement pareil quand il n'a pas été élu. Hein. Il a essayé de se replacer, il est revenu par le parti, finalement, on sait ce qui est arrivé. Et je voulais juste dire, il y a quand même un paradoxe en France, c'est que les présidents, en général, sont considérés comme des rois et se considèrent peut-être un peu comme des rois, alors que finalement, aussi les citoyens disent chaque fois qu'ils sont élus par rejet. Sarkozy, on dit qu'il a été élu par rejet de Royal, Hollande, du rejet de Sarkozy, Macron, le rejet de Le Pen. Et malgré tout, vous êtes vraiment toujours dans le paradoxe et c'est vraiment très intéressant.
C'est vrai, voilà. Mais on est un peuple très simple, hein, vous savez. Hein, c'est ça. Allez, on va passer justement de l'autre côté de l'échiquier parce que pendant ce temps-là, à droite, les Républicains donnent des nouvelles. Voilà, figurez-vous. Ce week-end, il sera distribué 1,5 million d'exemplaires dans toute la France d'un tract avec un titre très parlant pour que la France reste la France. Voilà. Dans la suite du tract, les Républicains égrènent des mesures choc comme remettre en cause le droit du sol, expulser 300 000 clandestins ou délinquants étrangers, un tract siglé les Républicains, mais qui ne serait pas assumé par tous, justement, les Républicains. L'élection de Laurent Wauquiez n'aurait donc pas réglé tous les problèmes, c'est étrange. On va écouter justement ce qu'en pense la numéro 2 des Républicains, Virginie Calmels.
C'est vrai que ce tract est peut-être inutilement anxiogène. Moi, je m'interroge parce que je ne suis pas certaine, en fait, qu'il puisse encore avoir de l'impact pour convaincre des électeurs. Et je crois qu'il faut qu'on soit plus innovant dans la façon même de porter nos idées et de porter des messages qui soient plus convaincants.
Virginie Calmels avec Nicolas Demorand sur France Inter, Philippe Moreau, Chevrolet. Virginie Calmels, elle vient pas de la même de cette droite là justement. Hein, elle vient de travailler avec Alain Juppé, pardon. On sent une gêne aux entournures au sein du parti avec ce tract, véritablement.
Ce qu'elle dit, c'est que Wauquiez n'est pas le chef, pas encore. Il a peut-être le titre, mais en tout cas, il n'a pas la qualité, la capacité d'exercer réellement un leadership. Et ce qu'il essaie de faire, Wauquiez, ce que moi je comprends, c'est une tentative de clarification idéologique. Son tract, c'est un peu Marion Maréchal, nous voilà, mais ça a le mérite de poser clairement l'enjeu. La droite, c'est ça. Et il a besoin de clarifier parce qu'il y a tout un tas de gens, Pécresse, Bertrand, etc., qui gravitent autour des Républicains. On ne sait pas très bien dans le cas de Bertrand si il est toujours républicain ou pas. Et il y a besoin de ça pour que la droite existe. En même temps, c'est désagréable, forcément, et ça ancre la droite sur un territoire d'extrême droite, tout simplement parce que Macron occupe le reste de l'échiquier, et au grand plaisir des électeurs de droite. Les mesures qu'il prend, c'est des mesures de droite, c'est de la droite franche, ce que fait Macron. Donc, c'est difficile.
Éric Scholl, sur ce tract, on voit qu'à l'intérieur, plusieurs candidats, même que pendant la primaire des Républicains, on ne se rappelle peut-être plus, hein, mais en tout cas, ont pris position contre ce tract, en disant « c'est pas mon parti ».
Mais parce que la droite, en tout cas, jusqu'à présent, hein, quand elle s'est exprimée, en particulier sur l'Europe, on voit bien qu'elle n'était pas, c'est sûr, c'est un virage à droite toute.
Alors ça a toujours fait polémique à droite, hein, sur l'Europe. Hein, on se souvient, Séguin Chirac.
Oui, mais là, ça annonce quand même une profonde division l'année prochaine sur les élections. Parce que ce qu'on voit là, dans ce tract, c'est on pourrait retrouver la même chose en Hongrie ou la même chose, par exemple, en Italie. C'est-à-dire que c'est d'une droite populiste sur les thèmes d'immigration, des impôts, des trucs très classiques. Et on voit bien à quel point ça va diviser il y a une aile européenne au sein de la droite qui ne peut absolument pas, évidemment, se reconnaître dans ce type de propos.
Allez, on va continuer en parler dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Un couple de Tchétchènes soupçonnés d'avoir séjourné en Syrie est en garde à vue dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Cet homme et cette femme ont été arrêtés, l'un dans le Puy-de-Dôme, l'autre en Moselle, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Le détenu radicalisé, évadé de Brest, est mis en examen. Il avait réussi à prendre la fuite lors de son transfert à l'hôpital. Interpellé en Espagne après 15 jours de cavale avec un complice, il est donc mis en examen pour évasion violente en récidive et dormira ce soir à la prison de Rennes, son comparse, lui, à la prison de Nantes. Des salariés étaient en grève de la faim depuis 18 jours pour réclamer plus de moyens. Un accord a été trouvé aujourd'hui pour l'hôpital psychiatrique de Rouen. Il porte sur la création de 30 postes. Les grévistes en réclament une cinquantaine. Également, la création d'une unité dédiée aux adolescents. Une annonce conjointe de l'Agence régionale de santé et de la CFDT. Des Côtes d'Armor au Calvados, de la Manche à la Sarthe, 8 départements sont depuis 16 heures en vigilance. Vigilance orange face aux orages, une mesure préventive de Météo France jusqu'à demain matin 6h. Et puis les Bleus restent perfectibles dans beaucoup de domaines, mais tout se passe bien, les joueurs se connaissent de mieux en mieux. Déclaration depuis Clairefontaine cet après-midi de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de foot. La France jouera demain à Lyon son dernier match de préparation face aux États-Unis avant de s'envoler pour le Mondial en Russie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ce week-end, le parti Les Républicains va distribuer un tract hein, de 1,5 million d'exemplaires qu'il s'intitule, c'est le tract de la discorde, même au sein du parti, pour que la France reste la France. Alors, Sozy Kemener, il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. On nous avait expliqué, pendant finalement la campagne des primaires chez Les Républicains, que Laurent Wauquiez jouait cette carte très à droite pour séduire la base des Républicains. Mais maintenant qu'il est président, il n'y a plus besoin de la séduire, cette base. Alors pourquoi ça continue de cette manière?
Parce qu'il a le nez, évidemment, sur les prochaines échéances. Alors l'échéance européenne qui va être très très dure à passer pour lui, parce qu'il y a des différences de ligne au sein de son parti. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la clarification avant, hein, donc de façon très nette. Et puis, il y a quand même une course à l'échalote avec Emmanuel Macron sur un thème précis. Regardez, les stratèges qui se gravitent autour d'Emmanuel Macron, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, ils disent, on va se retrouver à 25-25 face à Laurent Wauquiez, ça risque en tout cas à la prochaine présidentielle. Donc ils regardent déjà très loin. Vous savez, d'accord, quand on arrive à l'Élysée, on pense toujours à l'élection suivante. Et ils disent, il faut le circonscrire, mais par la droite. Donc c'est pour ça, le discours des Bernardins et tout finalement de les chasseurs. Enfin, il y a toute une liste comme ça de catégories qui sont actuellement choyées, si vous regardez bien, par Emmanuel Macron. Donc il a vu ça, Laurent Wauquiez. Donc il essaie de pousser sur la droite pendant qu'Emmanuel Macron, hop, fait le pont et essaie d'attraper les futures cibles de Laurent Wauquiez. Donc c'est la course.
Ah d'accord, c'est la course entre les deux.
C'est la course.
D'accord, Emmanuel Foulon, quand vous voyez ce trag, en effet, pour vous, c'est assez étonnant, mais il traverse une crise identitaire, véritablement, les Républicains.
Oui, c'est ça qui est marrant. Hein. Au moment où Marion Maréchal Le Pen se fait retirer Le Pen, Laurent Wauquiez, on a l'impression qu'ils veulent se le faire rajouter. mais c'est aussi un peu la faute de Macron. Hein. Comme tu le disais très bien, il y a une volonté de Macron, déjà de vampiriser la gauche qui n'existe quasi plus, voire plus, la droite qui n'existe plus beaucoup, à part par Laurent Wauquiez, mais qui doit justement phagocyter sur son extrême à lui. Et par exemple, Macron, s'il continue à supporter Collomb et ses petites crises, ses petits mots qui, quelquefois, vont à l'encontre de ce que Macron pense, c'est parce qu'il a aussi besoin d'un Collomb pour faire de la droite dure. Et un socialiste qui fait de la droite dure dans son gouvernement, c'est évidemment très efficace. Le résultat, c'est ça, c'est que ça fait quand même... C'est assez dangereux parce que quand vous vampirisez les partis traditionnels de gauche et de droite, vous vous retrouvez avec une contestation qui se retrouve très très dure. Et c'est une technique que Macron a aussi utilisée dans le cas des cheminots, en sucrant justement, enfin en retirant le pouvoir au syndicat. Oui. Du coup, plus de couches intermédiaires et la radicalisation derrière, elle va être là, comme d'ailleurs il avait aussi déterminé dès le début que c'était l'extrême droite et puis l'extrême gauche qui était son principal adversaire. Et il fait de Mélenchon d'ailleurs son principal adversaire, vraiment dans l'idée de vampiriser la droite et la gauche.
Philippe Mauchevrolet, c'est vrai qu'on voit finalement assez peu Laurent Wauquiez, il est très discret depuis son affaire de Lyon et de ses propos tenus dans une école, mais il est assez discret aujourd'hui. C'est une cure médiatique véritable qui s'impose.
Oui, il a un problème d'image, Laurent Wauquiez, c'est que depuis le début, on a l'impression que son personnage est fabriqué. C'est-à-dire qu'on a du mal à croire à l'authenticité du personnage. Il a du mal à donner l'impression, contrairement à Marion Maréchal, qui bizarrement, elle, impose une image qui a l'air authentique et fraîche et neuve. Lui, il a du mal à imposer ça. Donc c'est un vrai souci. On l'a accusé de se teindre les cheveux pour paraître plus vieux. On l'a accusé d'être faux, même dans ses relations personnelles. On sait qu'il a été beaucoup critiqué à droite pour ça. Et donc, à partir de là, il se fait peut-être une cure médiatique juste pour essayer de se reconstruire une image. Ça va être quand même dur pour lui. Hein. C'est pas évident de reprendre le leadership à droite. Il y a quand même Sarkozy qui est encore là, même s'il fait moins de bruit que Hollande. Il y a quand même beaucoup d'obstacles dans sa course.
Mais sur les caméras, c'est vrai que ce tract, on se dit, bon, ça s'adresse peut-être aux électeurs du Front National, enfin, peut-être des anciens républicains. Est-ce que ça marche finalement? On le voit dans les sondages, justement, pour reprendre les sondages, on voit que Marine Le Pen est toujours devant et largement le renvoqué.
Ah oui, mais il pense, parce que lui, il a une chance, c'est qu'il est neuf, il est nouveau. Donc il se dit que Marine Le Pen a été très très abîmée par le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle.
Bah, on l'a vu quand même dans des gouvernements.
Oui, mais vous savez bien que en République française, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a, la course absolue, c'est la présidentielle. Donc il y a ceux qui ont été, et puis ceux qui sont jamais allés. Hein. C'est d'accord. Ce que disait souvent François Bayrou, d'ailleurs. Lui, il en était. C'est un club très particulier, d'accord. Donc il n'est pas dans le club pour l'instant, Laurent Wauquiez. Donc il a encore un peu de temps. C'est vrai que c'est un chemin semé d'embûches et c'est vrai que son gros problème, il est dans sa relation à l'opinion publique. À quel moment il est crédible?
Qu'il n'ait pas réussi à imposer un personnage. C'est très bizarre. Il n'y a pas de personnage Wauquiez.
Oui,
mais quand on regarde aujourd'hui, donc les anciens grands partis français, le Parti Socialiste et les Républicains, donc Wauquiez fort, on parle de crédibilité, il y en a zéro, ni l'un, ni d'un côté, ni de l'autre. Et donc, dans le débat d'idées, alors on voit bien, bon, il y a des arguments qui sont donnés, qui sont des arguments forts, mais qui sont toujours anti, mais il n'y a pas beaucoup de propositions, d'ailleurs, ni d'un côté, ni de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a quand même encore aujourd'hui une sorte de boulevard pour Emmanuel Macron.
Oui, toujours aujourd'hui.
Et peut-être pour François Hollande, c'est ça que François Hollande a peut-être vu dans cette idée de social-démocratie.
Bon, je voulais, c'est ça. Il y a encore un boulevard aujourd'hui où il y a finalement, on commence à connaître quelques opposants qui peuvent proposer une alternative aujourd'hui.
Non, mais on est rentré dans une logique populiste. L'élection, en gros, a opposé, la dernière élection présidentielle n'a opposé que des logiques populistes. Un populisme de col blanc qui est Macron, un populisme d'extrême droite, un populisme d'extrême gauche. C'est une logique populiste. Donc, Wauquiez est en train d'ancrer la droite dans cette logique populiste. Hollande en est bien incapable. S'il avait dû le faire, il l'aurait fait. Mais la question, c'est qui va pouvoir rivaliser avec Macron? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, en gros, Macron ne veut pas d'opposition, ni de corps intermédiaire, ni rien du tout. Et c'est vrai que sur ce vide-là, il peut se construire des réussites aussi phénoménales que la sienne l'année de son élection. Donc c'est quelque chose qui est... On est en train de changer d'époque politique, probablement. Mais c'est dur pour les équipes en place.
Ah, bon, écoutez, voilà, en tout cas, on leur laissera le week-end pour se reposer. Allez, nous, en tout cas, on revient lundi, puisque les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup, Emmanuel Foulon.
Grand plaisir.
Passé, ce soir. Merci, Philippe Moreau, Chevrolet. Sosie Kemener, la une de Marianne, cette semaine.
Alors, il y a la photo de Jean-Louis Borloo, la photo de Nicolas Hulot et celle de François Bayrou, les cocus de la Macronie, on vous raconte tout.
Très bien. Et la une de Quoi International, Eric Scholl?
L'islam, vu par la presse étrangère, une obsession française.
Très bien, à retrouver en tout cas en kiosque. Il est temps pour nous. D'ailleurs, retrouve Olivier de Lagarde. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Jean-Mathieu, comment allez-vous?
Mais très bien,
vous
même.
Vous informé, t'es bien?
Mais je vous trouve pétillant.
Et
bien justement, de quoi va-t-on parler ce soir dans Tout est politique?
Nous allons parler d'un thème que nous sommes probablement les seuls à pouvoir traiter. Je veux parler du service public. On ne va pas parler du service public, mais c'est sur le service public que vous allez assister à cette émission. Je vous en dirai pas plus, restez avec nous.
Quel sens du teasing, c'est incroyable. Allez, Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.